Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 17 juillet, le gouvernement fédéral qualifie de ridicule la critique de l'opposition de son backflip de paiement de la prime Covid. L'Arabie Saoudite exhorte le monde à ne pas réagir de manière excessive à sa réouverture de l'espace aérien aux avions israéliens. Tennis, l'Australien Leighton Hewitt est intronisé au temple de la International Hall of Fame. Le gouvernement fédéral a défendu son retard dans le rétablissement du paiement de la prime Covid supprimée il y a quelques semaines, après avoir insisté plutôt sur le fait qu'il ne pouvait pas rétablir ce financement. Jim Chalmers, le trésorier, a déclaré sur Sky News que le gouvernement n'était pas intéressé à jouer à des jeux de blâme après les accusations de l'opposition, mais plutôt à s'occuper de la nation.
There's an appetite in the community to come together around these problems and not to constantly carp and whinge about them. And I think that those comments from, whether it's Susan Lee or from others, are frankly ridiculous in the context of us trying to do the right thing by people.
Et puis le président de l'Association médicale australienne, Dr Omar Khorshid, déclare que le port du masque devrait être envisagé alors qu'une nouvelle vague de coronavirus frappe tout le pays.
And I think this government is learning some new lessons as it gets its feet under the desk, and how important it is to stay in touch with the community, with the experts and others in the community that are giving them advice, and not just to listen to the bean counters and bureaucrats that do see any expenditure on health as a waste. We know, as doctors on the ground and as workers in a healthcare system, that investment in healthcare, investment in pandemic management is a positive investment for the economy, for Australia's health.
Le chef du Parti libéral, Peter Dutton, a appelé le gouvernement à accélérer l'acquisition de sous-marins nucléaires dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS. Le ministre de la Défense, Richard Marles, s'est demandé si l'Australie obtiendrait des sous-marins de fabrication américaine ou britannique au cours du premier trimestre de 2023. Mais Peter Dutton déclare que le processus doit être accéléré et que le temps est essentiel pour l'accord sur les sous-marins, car les relations avec la Chine continuent de se détériorer. Le parti d'opposition du Victoria a promis de légiférer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 s'il remporte les élections de novembre. L'objectif de la coalition correspond à celui des travaillistes du Victoria et supérieur à l'objectif fixé par le gouvernement travailliste fédéral. Un avion cargo s'est écrasé samedi soir dans le nord de la Grèce, a rapporté l'agence de presse Athens News. Aucune information officielle sur le nombre de personnes à bord n'était disponible. Ce que l'on sait, c'est que l'avion appartenait à l'Ukraine et volait de la Serbie à la Jordanie lorsque le pilote a alerté les autorités sur un problème dans l'un des moteurs de l'avion. L'avion s'est écrasé à environ 40 km à l'ouest de l'aéroport de Kavala, dans le nord de la Grèce, avant qu'un atterrissage d'urgence puisse être effectué. Joe Biden a terminé sa visite controversée en Arabie Saoudite. Le président américain a assisté hier au sommet, réunissant 6 membres du Conseil de coopération du Golfe. Le reportage de Nicolas Feldman pour RFI.
We will not walk away.
On ne se détourne pas. Les États-Unis vont rester un partenaire actif au Moyen-Orient. Devant les dirigeants arabes, Joe Biden acte le retour de son pays dans la région. Pour le président américain, pas question de laisser les autres puissances, la Chine, la Russie ou l'Inde, investir le Moyen-Orient. Les États-Unis vont reprendre leur place. Pour cela, la nouvelle vision de l'administration américaine se veut d'abord basée sur une coopération économique retrouvée, mais aussi sur une reprise du dialogue. Exemple avec l'invitation prochaine à Washington du président des Émirats Arabes Unis, pourtant en froid depuis des mois avec les Américains. Joe Biden attendait certainement en retour quelques mains tendues, mais pas d'annonce des monarchies du Golfe pour limiter la flambée des prix du pétrole. Pas non plus d'accord de l'Arabie Saoudite sur une normalisation de ses relations avec Israël. C'est au contraire pour le président américain un autre geste qui restera, ce check du poing échangé avec Mohamed Ben Salman, comme pour sceller le retour en grâce du prince héritier d'Arabie Saoudite, un pays encore considéré il y a peu comme un paria par les États-Unis.
Le sommet du G20 des ministres des Finances à Bali a pris fin sans accord sur les principales crises à travers le monde. Crise alimentaire, crise énergétique, l'inflation qui grimpe et les désaccords sur la guerre en Ukraine. Reportage Grégory Genévrier pour RFI.
Les grands argentiers du G20 se sont finalement quittés dos à dos sans même publier de communiqué final. Pourtant, les sujets étaient nombreux sur la table. Lutte contre l'inflation, réponse au risque de crise alimentaire, restructuration de la dette des pays en difficulté. Aucun accord n'a été trouvé. Les divergences autour de la guerre menée par les Russes en Ukraine ont paralysé les discussions. Le ministre indonésien s'est contenté d'annoncer des progrès dans le débat sur la mise en place d'une réforme mondiale de l'imposition. L'Indonésie, qui compte prochainement organiser une réunion avec les ministres de l'Agriculture et des Finances sur le sujet de l'insécurité alimentaire. Face à cet échec, la directrice exécutive du FMI, Kristalina Georgieva, a appelé les pays du G20 à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire baisser l'inflation. Elle rappelle que les perspectives économiques s'assombrissent. Un G20 qui apparaît donc bien fracturé avant la réunion de ses chefs d'État prévue en novembre prochain à Bali.
Au Sri Lanka, après la démission du président Gotabaya, un nouveau président sera élu par le Parlement d'ici quelques jours. Il aura plusieurs défis, sortir le pays de la crise économique et réconcilier les citoyens avec leur politique. Comme Bastin pour RFI a pu rencontrer le chef de l'opposition, Sajit Premadasa.
À 55 ans, Sajit Premadasa est le fils d'un ancien président assassiné en 1993 lors de la guerre civile. L'allure relaxe, il évite tout triomphalisme face à la situation.
Il faut reconfigurer notre économie autour des nouvelles technologies et de l'export. L'agriculture doit fleurir à nouveau. Il faut mettre en place des aides qui ciblent les populations les plus vulnérables. Mais pour tout cela, nous avons des ressources limitées. Les discussions avec le FMI sont importantes pour regagner une crédibilité internationale.
Leader du parti d'opposition SJB, Sajit Premadasa dispose d'une assise au Parlement et du soutien du parti de la minorité tamoule. Mais quel que soit son nom, le nouveau dirigeant du Sri Lanka aura fort à faire pour restaurer la confiance du peuple envers ses politiques tout en sortant de l'abîme économique.
La majorité de la population a voté pour le parti des Rajapakse qui les a trahis. Ils ont fait passer un amendement qui a considérablement renforcé le pouvoir présidentiel. Donc nous ne pouvons pas les décevoir. Il faut un changement de système, des résultats concrets et plus de démocratie.
Le Parlement devrait trouver un successeur au Premier ministre Ranil Wickremesinghe, devenu président par intérim rapidement. Mais sur la promenade maritime de Colombo, les manifestants affirment qu'ils ne lèveront le camp que lorsque le peuple aura voté pour un nouveau gouvernement et une nouvelle constitution.
En Ukraine, des missiles russes ont été tirés depuis la centrale de Zaporijia, dans le sud du pays. La situation est très tendue entre les militaires russes présents et le personnel ukrainien. Précision de Daniel Valo pour RFI.
Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs centaines de soldats russes sont cantonnés en permanence sur le site de la centrale. À cela s'ajoutent des équipements lourds, des chars, des véhicules blindés et des camions chargés d'armement et d'explosifs. Plus grave encore, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir déployé sur le site des lanceurs de missiles et d'avoir procédé à des tirs sur le territoire de Nikopol, à 80 km au sud-ouest de Zaporijia. Les autorités ukrainiennes se disent extrêmement inquiètes et elles accusent l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, de ne rien faire pour pousser les Russes à évacuer la centrale. Selon Petro Kotin, le directeur de l'agence nucléaire ukrainienne, l'AIEA ne se montre pas assez ferme à l'égard de Moscou pour des raisons politiques et parce qu'un Russe siège auprès de son directeur général. Des accusations rejetées par l'AIEA qui insiste de son côté pour accéder à la centrale afin de pouvoir l'inspecter. Le gouvernement ukrainien refuse au motif que cela reviendrait à légitimer l'occupation du site par l'armée russe. À la situation très dangereuse au sein de cette centrale occupée vient donc s'ajouter des tensions diplomatiques de plus en plus fortes entre l'Ukraine et l'AIEA.
Le nouveau ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a terminé sa visite diplomatique en Afrique. Reportage Sidji Ansané pour RFI.
Accompagné du chef d'état-major français des armées, le ministre Sébastien Lecornu a entamé sa visite par un entretien avec Tene Biraima Ouattara, son homologue de la défense, l'occasion de passer en revue la coopération militaire entre les deux pays, qui a notamment donné naissance à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, inaugurée l'an dernier. Le ministre ivoirien de la défense était d'ailleurs à Paris cette semaine pour assister à la conférence des donateurs afin de finaliser la deuxième phase de ce site destiné à former les soldats de la sous-région. Le ministre français des armées a ensuite rencontré le président Alassane Ouattara avant de terminer son séjour par la visite de l'historique base française de Port-Boué et son millier de soldats. Cette visite éclair s'inscrit dans la redéfinition de la stratégie militaire française dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron souhaite désormais que ses troupes servent de soutien aux armées africaines qui devront conduire elles-mêmes les opérations de terrain. L'objectif est de changer la perception des populations dont une partie garde l'image d'une France conquérante sur le continent. Les états-majors ont jusqu'à l'automne pour réviser le dispositif militaire français en Afrique afin de répondre efficacement au péril djihadiste qui s'étend progressivement vers le golfe de Guinée.
En Grande-Bretagne, les 5 candidats restants pour devenir le prochain Premier ministre se réuniront ce soir lors d'un deuxième débat télévisé. Le premier débat étant centré sur des thèmes clés tels que l'honnêteté en politique et la politique économique. Au sens large, le débat de ce soir devrait se concentrer sur la fiscalité et les questions sociales plus larges, y compris les droits des transgenres. Les sondages d'opinion suggèrent également que les conservateurs accusent un retard considérable sur le parti travailliste d'opposition. Laure Calmus pour RFI revient sur le premier débat il y a quelques jours.
Qui sera le prochain Premier ministre britannique? Ils avaient hier 90 minutes pour convaincre. Les 5 candidats sont tous membres du Parti conservateur, tout comme Boris Johnson, mais n'étaient pourtant pas à l'aise lorsque le présentateur de Channel 4 a posé une question directe.
Oui ou non, Boris Johnson est-il honnête?
Des rires sont entendus dans le public. Pas toujours, a répondu Kemi Badenoch en baissant les yeux. Mais tous attendaient la réponse des deux favoris, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, qui a voulu se désolidariser du Premier ministre démissionnaire.
J'ai fait de mon mieux pour lui accorder le bénéfice du doute le plus longtemps possible, mais je ne pouvais plus, c'est pour ça que j'ai démissionné.
Penny Mordaunt, peu connue des Britanniques, mais qui, selon les sondages, battrait tous ses rivaux en cas de duel.
Il y a eu des problèmes graves et je pense qu'il en a payé le prix.
Les 5 candidats ont voulu se démarquer en exposant leur façon de gérer la crise du coût de la vie et l'inflation. Penny Mordaunt aimerait baisser les impôts, Rishi Sunak a fustigé des contes de fées, jugeant cette baisse irréaliste. Surprise de la soirée, Tom Tugendhat serait le vainqueur de ce débat. 36% des 1000 personnes interrogées auraient voté pour lui.
La chaleur en Europe de l'Ouest avec des températures qui dépassent les 40 degrés dans certains pays, la Grèce, la France, l'Espagne et le Portugal luttent contre plusieurs incendies en ce moment. Daniel Valo, RFI.
Ce sont des dizaines d'incendies qui sont toujours actifs en Espagne, du nord au sud du pays. En Andalousie, plus de 3000 personnes ont dû être évacuées, tandis que dans la région d'Estramadour, une autoroute reliant Madrid au Portugal a dû être fermée durant plus de 12 heures. Le Portugal est lui aussi touché par ces incendies qui ont provoqué 2 morts et une 60aine de blessés et détruit plus de 12 000 hectares de forêt et de broussailles. La situation reste très difficile également dans le sud-ouest de la France, particulièrement en Gironde, où près de 10 000 hectares de forêt ont été détruits. Les feux ont entraîné depuis mardi l'évacuation de 12 000 personnes en France. Les incendies se poursuivent et l'inquiétude redouble car un nouveau pic de chaleur devrait être atteint dans les prochains jours. Les agences météo prévoient des températures de 40 degrés en France, 42 au Portugal et même 44 degrés en Espagne dans certaines régions. Le Royaume-Uni s'attend lui aussi à des records de chaleur en début de semaine prochaine. La température pourrait y dépasser les 40 degrés, un record historique. Une situation qui a poussé l'agence météo britannique à déclencher pour la première fois l'alerte rouge, mettant en garde contre un risque pour la vie.
Un mot de sport, tennis. Leighton Hewitt a été officiellement intronisé au temple de la International Tennis Hall of Fame. L'ancien numéro 1 mondial et capitaine de la Coupe Davis en Australie a reçu l'honneur mais n'a pas pu assister à la cérémonie en raison des restrictions de voyage Covid. Dans ses remarques après avoir reçu le prix, Leighton Hewitt a déclaré qu'il se donnait toujours à 100% chaque fois qu'il mettait le pied sur un court de tennis. Leighton Hewitt se dit reconnaissant pour la carrière qu'il a vécu.
I feel fortunate that I was able to play across different generations, that I was able to be on the same court as my heroes that I looked up to, like Andre Agassi and Pete Sampras, and then go on and compete against three of the greatest tennis players our sport has ever seen in Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 15, Hobart 13, Canberra 11, Sydney 20, Brisbane 22, Cairns 26, Darwin 29 et à Alice Springs un maximal de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 17 juillet, le gouvernement fédéral qualifie de ridicule la critique de l'opposition de son backflip de paiement de la prime Covid. L'Australien Leighton Hewitt est intronisé au temple de la International Hall of Fame. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.